Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le président Tshisekedi clôture aujourd'hui sa visite officielle à Paris. Après des échanges avec son homologue français ainsi que le Parlement français, le chef de l'État a rencontré la diaspora congolaise sur place. Un chercheur congolais en relations internationales longtemps établi à Paris voit d'un bon œil ce rapprochement entre la RDC et la France. Vous suivrez Christophe Mafuta. Le cardinal Fridolin Ambongo n'a jamais refusé de répondre à une invitation de la justice, mais si ça se transforme en tracasserie, ça va appeler une autre réaction. C'est la réaction de la CENCO par rapport à l'information judiciaire ouverte contre le cardinal Ambongo. Il s'agit d'investiguer sur le comportement qualifié de séditieux de la part de l'archevêque de Kinshasa. Et puis, l'invité de ce mardi midi, docteur Alain Mugoto, responsable des programmes au sein de l'ONG Village Rich, il nous parle de la problématique de rupture des vaccins dans les structures sanitaires du Maniema. Madame, Messieurs, bonjour. Ce mercredi 1er mai marque la fin de la visite officielle du président Tshisekedi à Paris en France. Occasion pour le chef de l'État congolais de rencontrer la communauté congolaise sur place avant de quitter le sol français. Justement, comment cette visite est perçue par les ressortissants congolais qui résident en France? Christophe Mafuta est un juriste et chercheur congolais en relations internationales et diplomatie établi depuis des longues années à Paris. Il voit d'un bon œil ce rapprochement entre la RDC et la France, vu surtout le rôle majeur que joue la France dans la diplomatie internationale. Les propos de Christophe Mafuta ont été recueillis par Cynthia Bachizi.
Alors, je pense que la visite du président Tshisekedi aujourd'hui à Paris est une bonne chose. Ce rapprochement entre Kinshasa et Paris, c'est un avantage aujourd'hui pour la diplomatie congolaise, vu surtout le rôle majeur que joue la France dans la diplomatie internationale. Et je pense que la visite du chef de l'État doit être ce porte, en tout cas, qui ouvre le pays également à pouvoir aider le pays à pouvoir trouver des solutions à cette situation qui prévaut au pays en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, surtout principalement le conflit à l'Est et le conflit avec le Rwanda. Et en même temps, j'ai vu que le président a passé beaucoup de temps à visiter, à faire des salons avec des entrepreneurs français, à visiter le monde des affaires français. Je pense que sur ce point-là, nous ne devons pas rester dupes. La République démocratique du Congo doit également se responsabiliser pour laver, cleaner son image par rapport à tous les scandales de corruption et des détournements qui ne sont pas cachés, qui sont très visibles aujourd'hui. Et le Congo doit savoir en tout cas joindre ces deux aspects, ces deux choses pour pouvoir tirer un bon avantage de ces rapprochements, comme je l'ai dit, entre Kinshasa et Paris.
Je vous attends là-bas. C'est l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lancée à des potentiels investisseurs français intéressés par la RDC. C'était lors de la table ronde d'affaires co-organisée par le MEDEF, patronat français, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC, dans l'enceinte du ministère français de l'économie. Félix-Antoine Tshisekedi rassure les uns et les autres quant au climat des affaires, première crainte des investisseurs étrangers attirés par la RDC, avec certains dispositifs mis en place. Je vous propose d'écouter Félix Samouna à ce sujet, le président de la Commission nationale PME au sein de la FEC. Il a pris part à cette réunion.
Le président de la République, il se définit comme le premier promoteur de la destination RDC. Et il a renforcé cette position en parlant de pompiers. Pompiers, pour ce qui est du climat des affaires, qui est la première crainte des investisseurs venant de l'étranger, c'est de croire qu'en RDC, le climat des affaires est difficile. Bien sûr, il est difficile, mais il n'est quand même pas plus difficile que dans d'autres pays. Mais enfin, le président de la République a apporté son soutien en disant qu'il sera le premier pompier, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une alerte, grâce à sa cellule, à la cellule climat des affaires qui lui est directement rattachée, que dirige Monsieur Roch Bachala, les entreprises étrangères peuvent attirer l'attention du chef de l'État. Et je crois aussi qu'il en va de même pour les entreprises congolaises. Ce qui est important aussi à retenir, c'est la volonté affichée, en tout cas, des entrepreneurs français de revenir sur le Congo ou de venir renforcer les positions sur le Congo dans les quatre secteurs qui étaient les secteurs thématiques, c'est-à-dire l'énergie, l'infrastructure, l'agriculture et construction de villes nouvelles.
signalant que cette table ronde s'est clôturée hier soir avec la signature de deux contrats. Il s'agit d'un contrat pour la certification des minerais avec la GECAMINE et un autre avec Metrokine pour la construction d'un réseau de trains urbains à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a également confirmé l'implication de la France dans le projet du Grand Inga. C'est un dossier signé Cynthia Bashizi Nabizana. Le cardinal Fridolin Ambongo n'a jamais refusé de répondre à une invitation de la justice, mais si ça se transforme en tracasserie, ça va appeler une autre réaction. Ce sont les premiers propos de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, par l'entremise de son secrétaire général, Mgr Donatien Cholet, estime qu'à ce stade d'une information judiciaire dont a besoin le parquet, il n'y a rien à dramatiser. Mgr Donatien Cholet, au micro de Jeff Ngoy.
La fameuse lettre d'invitation est arrivée pendant que le cardinal était à Nairobi pour une mission en tant que président de CHEM. Il est rentré le vendredi 26, donc le week-end s'en est suivi. Et entre-temps, on a lu la fameuse lettre. On se demande quelle est la motivation de ceux qui ont voulu la médiatiser. Donc, on peut vraiment pas parler du refus. N'importe quelle autorité, même au niveau mondial, ils peuvent être écoutés pour besoin de formation.
Donc, il est prêt à répondre à l'invitation du parquet.
Pour le moment, l'invitation est tombée caduque. Je ne sais pas comment va se comporter le procureur.
Comment vous appréciez la suite de l'événement?
À mon avis, ça va s'arrêter là. Je ne vois pas de raison pour laquelle le cardinal serait poursuivi. Donc, c'est tout à fait normal que si on a besoin des informations de sa part. De toutes les façons, l'Église ne s'est jamais interférée en justice. Mais si ça se transforme en tracasserie, alors ça, c'est une autre dimension qui appellerait notre réaction. Mais la justice, si elle est juste, personne n'en disconvient.
Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné dans une note destinée au procureur général près la Cour d'appel de Matete, le 27 avril, d'ouvrir une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Il ordonne au procureur général près la Cour d'appel de Matete d'investiguer sur le comportement séditieux entraînant des faits infractionnels contre le cardinal Ambongo. Selon le procureur général près la Cour de cassation, au moment où le pays fait face à la guerre dans sa partie orientale, il s'observe dans les comportements du prélat une constance des propos séditieux tenus lors des points de presse, interviews et sermons de nature à décourager les militaires des FARDC qui combattent au front. Et puisque nous parlons du front au Nord Kivu, notez ce calme apparent. Ce mercredi, dans la cité minière de Rubaya, c'est après des rudes combats rapportés toute la journée de mardi, des combats ayant opposé les rebelles du M23 RDF aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 veut tout faire depuis mardi en vue de contrôler cette zone riche en minerais stratégiques dont le coltan et le niobium. Chris Mukand Matande, reportage.
Ce mercredi matin, c'est encore la confusion quant à savoir qui des FRDC ou du M23 a le contrôle de Rubaya, cité minière qui se trouve dans le groupement Mopfoni Matanda, chefferie de Baoundé en territoire de Masisi. Mardi à l'aube, les rebelles du M23, appuyés par un renfort de militaires de l'armée rwandaise, ont lancé une tentative afin de prendre Rubaya. Ils ont pris l'axe Mokore-Kabashumba, passant par Mugendo et Umure. Ils se sont retrouvés à Matanda, puis Bihambwe, afin de se rapprocher davantage de Rubaya, indiquent des témoins dans la région. Si les uns affirment que les terroristes du M23 ont pris le contrôle de Rubaya à l'issue des affrontements de la journée de mardi, une habitante de Rubaya, jointe au téléphone par les journalistes d'une radio émettant dans le territoire des Masisi, indique plutôt que les combats sont circonscrits dans les montagnes autour de la cité.
Les M23 sont des gens installés près du centre de Rubaya. Ils sont à la colline Kishusha, dans des installations de la radio RCA de Rubaya. Ils encerclent la cité de Rubaya, dans des collines surplombant Rubaya.
La thèse des combats dans les collines est corroborée par d'autres sources indépendantes qui citent Mfunzi, une colline dans la périphérie de Rubaya, où les affrontements se poursuivraient ce mercredi. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, environ 30 déplacés sont morts ces deux derniers mois au site de Nyamusasi à Chomia, c'est à la plaine du lac Albert dans le territoire de Djougou. La suspension de l'aide humanitaire, le manque des médicaments et la difficulté d'accès aux champs sont les principales causes de décès dans ce site, déclarent les membres du comité de gestion. Ils demandent au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État en vue de leur permettre de retourner dans leur village d'origine. C'est un reportage de Isaac Remoyope.
La situation humanitaire des déplacés se dégrade aussi de Nyamousassi qui héberge plus de 20 000 personnes depuis la suspension de l'aide alimentaire. À cela s'ajoute le manque de médicaments au centre médical installé au site pour la prise en charge de ces sinistrés. Les patients qui sont transférés à l'hôpital général de Tchoumia disent n'avoir pas de moyens pour payer les soins fixés à 95 000 francs congolais. Conséquence, des cas de décès sont enregistrés chaque semaine dans ces sites. Selon ces gestionnaires, 10 déplacés sont morts au mois d'avril dernier contre 20 à mars, ce qui fait un total de 78 cas de décès enregistrés dans les camps depuis le début de cette année 2024, ajoute les mêmes sources. Cette situation est exacerbée par la difficulté d'accès aux champs dans les localités proches aux escarpements des monts blés qui sont occupés par des miliciens de la Codeco. Ces déplacés plaident pour le rétablissement de la paix dans la zone pour leur permettre de regagner leurs milliers d'origine. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Entre-temps, dans la province du Tanganyika, plus de 7000 ménages vivant dans des sites de déplacés à Kongolo ont besoin d'une assistance humanitaire, mais d'autres souhaitent retourner dans leur milieu d'origine. Ils l'ont fait savoir lundi à l'administrateur du territoire de Kongolo. La plupart ont fui des affrontements entre groupes armés dans le territoire de Kabambare, dans la province du Maniema. Paulin Munanga nous fait le point.
Ces déplacés vivent depuis 8 mois dans les sites de Kaseya, Kabianga et Tchofa à Kongolo. Leurs représentants sont allés à la rencontre de l'administrateur du territoire de Kongolo pour lui faire part de leurs difficultés. Il manque les moyens de survie et certains sont obligés de faire des petits travaux chez des particuliers pour s'en sortir. Témoignage de quelques déplacés. Nous vivons difficilement dans ces camps. Je peux aller par exemple au centre-ville pour laver les habits chez un particulier et on me paye 2000 francs congolais. Cela me permet d'acheter un bassin de maïs. Il n'y a aucune ONG qui nous assiste. Il n'y a que de simples visites. Certaines personnes qui disent travailler pour l'OIM ou Caritas nous rendent visite tout simplement. L'administrateur du territoire de Kongolo leur a rassuré qu'il a déjà fait rapport de leur situation à la hiérarchie. Cependant, pour les chefs des bureaux de l'Organisation internationale pour les migrants, dans le Tanganyika, l'OIM s'occupe de se déplacer en installant des abris dans ces sites. Il précise que des efforts sont fournis pour installer des sanitaires et des points d'eau. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu. La Radio Okapi Bukavu a mis fin hier 30 avril aux programmes locaux, notamment le décrochage local. Cela dans le cadre du désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. Les auditeurs de Radio Okapi Bukavu n'ont pas hésité à manifester leur regret de voir ce programme ne plus émettre. Rachel Kiesse nous en parle dans ce reportage.
Au cours de ce dernier décrochage local, la société civile, le caucus des femmes et les artistes se sont exprimés et ont partagé le souvenir qu'ils gardent de ce programme local. Ils s'expriment à tour de rôle dans cet extrait.
La radio Okapi est restée une des radios professionnelles ayant plus de couverture sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu.
Je suis pleine d'émotion parce que depuis que la radio Okapi a commencé à émettre, la place que cette radio a accordée aux femmes et a contribué à l'émergence et à la promotion des organisations des femmes.
En même temps aussi un sentiment de regret, la population s'est vraiment habituée à cette radio. Je voulais jeter mes fleurs à ces journalistes qui nous ont toujours accompagnés à Bukavu.
Toutefois, la direction de la radio Okapi apaise les auditeurs du Sud Kivu car l'antenne nationale continuera d'émettre. Amadou Ba, directeur adjoint.
Le studio ferme, mais Radio Okapi ne ferme pas. Elle ne fermera pas aujourd'hui ni demain. Bien sûr qu'on regrette que le studio de Bukavu ne soit plus opérationnel. J'aimerais quand même dire à nos auditeurs qu'ils peuvent compter sur nous et que depuis Kinshasa, nous allons être tout à fait conscients qu'il faut continuer à ne pas éteindre la flamme de Radio Okapi.
Signalons que la MONUSCO a cessé ses opérations ce 30 avril dans la province du Sud Kivu à la demande du gouvernement congolais. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Vous le savez, nous sommes bien le 1er mai et c'est la journée internationale des revendications des travailleurs, communément appelée fête de travail. Cette fête vise à commémorer les luttes historiques et les succès engrangés par les travailleurs du monde entier dans la foulée. À cette occasion, Radio Okapi s'est intéressée aux conditions de travail des conducteurs des taxis moto à Beni au Nord Kivu. Dans cette région, des milliers de taximens moto, en majorité des jeunes, sont confrontés à des difficultés liées à l'insécurité. Reportage signé Martial Papi Mukeba.
À l'absence d'autres formes de travail, les taximènes moto est une profession pratiquée par des milliers de jeunes à Béni, une région où plusieurs jeunes se font enrôler dans des groupes armés, le chômage et le manque des perspectives d'avenir aidant. Certains travaillent la journée et d'autres la nuit dans une zone où la moto est le moyen de transport par excellence. Mais, du fait de l'insécurité, les conditions de travail des taximènes moto de Béni sont devenues difficiles, comme l'explique Jean-Marie Bassabossé, secrétaire de l'association des motards de Béni.
Des vols de moto, il y a des kidnappings, surtout à ceux qui travaillent la nuit, même les recettes qui sont un peu minimum. Imaginez-vous un patron qui achète sa moto de 1000 et quelques dollars. Le motard manque, comment est-ce qu'il peut donner les 20 dollars par semaine?
Jérémy Ankoso, motard rencontré dans l'un des parkings des motards de Béni, aborde dans le même sens.
Nous sommes ici concentrés dans le même parking. Moyen de trouver de l'argent dans les sécurités, c'est difficile parce que nous sommes nombreux.
La région de Béni compte 30 associations de taximènes moto, chacune avec des 100 à 3000 membres. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La police sud-africaine enquête pour savoir si le nouveau parti politique de l'ancien président Jacob Zuma avait falsifié les signatures de ses partisans pour s'inscrire aux élections nationales du mois prochain. Le parti MK, qui s'est montré très critique à l'égard du Congrès national africain ANC qu'il dirigeait, est impliqué dans des procédures judiciaires visant à déterminer si ce parti et Jacob Zuma peuvent se présenter aux élections nationales et provinciales du 29 mai. Ces élections pourraient être les plus importantes de ces 30 dernières années en Afrique du Sud.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le docteur Alain Mugoto Biamungu, manager programme de l'ONG Village Reach. Il nous parle de la problématique de rupture de vaccins dans les structures sanitaires du Maniema. Il est avec Florence Kizalunga.
Docteur Alain Mugoto, bonjour.
Bonjour madame.
Avant d'aller plus loin, c'est quoi d'abord Village Reach?
Village Reach, c'est une organisation international non gouvernemental des droits américains qui travaille en partenariat avec le ministère de la Santé par le truchement du programme élargi des vaccinations.
Votre vision, c'est quoi? Qu'est-ce que Village Reach fait?
Oui, Village Reach a comme vision de voir tout le monde accéder aux soins de santé au moment et à l'endroit où il en a besoin. Et donc, nous sommes là, n'est-ce pas, pour appuyer le programme élargi des vaccinations dans l'amélioration de sa chaîne d'approvisionnement des vaccins et autres intrants de vaccination, l'optimiser pour que l'on en augmente la disponibilité au point de prestation de services.
C'est-à-dire que votre structure, en quelque sorte, va résoudre cette problématique de manque de vaccins dans les structures de santé?
Bien entendu, aux côtés des autres partenaires, nos antennes, nos zones de santé, nos aires de santé et les autres parties prenantes dans la chaîne d'approvisionnement, les autres partenaires internationaux, ceux du système des Nations Unies. Nous mettons, bien entendu, en œuvre des approches qui permettent à ce que les vaccins soient disponibles au point de prestation de service.
Et pour y arriver, comment allez-vous procéder? Et
ici, dans la province de Maniema, nous avons procédé à un atelier qui a regroupé toutes les zones de santé, n'est-ce pas? Et même si les zones ciblées étaient les zones qui bénéficient du fonds accélérateur pour l'équité, ce sont des zones qui ont régorgé beaucoup d'enfants zéro dose et sous-vaccinés. Et donc, nous réfléchissons ensemble pour voir comment reconfigurer la chaîne, la rendre agile, n'est-ce pas, la rendre réactive pour que désormais, n'est-ce pas, ayant défini la manière désormais de changer des habitudes et de gérer la chaîne d'approvisionnement, que nous puissions voir le produit de vaccination disponible au moment et à temps où les populations en ont besoin. Configuration de la chaîne d'approvisionnement qui va nous permettre facilement de mettre en œuvre l'approche qu'on appelle la nouvelle génération de la chaîne d'approvisionnement.
Et pour arriver à créer cette structure Village Reach, vous êtes parti sur base de quelle problématique?
Oui, le constat est que l'école de santé publique a réalisé une enquête de couverture vaccinale en 2022, n'est-ce pas, pour le programme élargi de vaccination. Et cette enquête de couverture vaccinale a montré que plus de 60 000 enfants ont été zéro dose pour la province du Maniema. Et donc la province du Maniema prenait la deuxième place juste après la province de la Tchopo avec le lourd fardeau d'enfants à zéro dose en RDC. Et c'est de ces constats qu'on s'est posé des questions. pourquoi à cette situation. Et les enquêtes, n'est-ce pas, ont montré que plus de 20% des raisons, n'est-ce pas, d'enfants zéro dos, c'était le manque, n'est-ce pas, les ruptures des stocks de vaccins au niveau de points de prestation de services. Et donc, c'est pour résoudre ce problème-là, n'est-ce pas, de manque de vaccins ou des ruptures de vaccins au niveau des centres de santé qui vaccinent, que nous tenons cet atelier. Nous avons tenu cet atelier 3 jours ici pour reconfigurer la chaîne d'approvisionnement, la rendre, l'optimiser, la rendre agile, la rendre réactive pour que désormais, n'est-ce pas, les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement soient capacités et aient des nouvelles méthodes de gérer cette chaîne d'approvisionnement, gérer des méthodes de collecte des données pour des prises de décisions adéquates sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc, tout cela mis ensemble permettra à ce que la disponibilité de vaccins au point de prestation de service soit une réalité dans la province du Maniema.
Résoudre le problème de rupture de vaccins dans les structures, mais la province du Maniema a un sérieux problème des infrastructures routières. Avez-vous aussi réfléchi dans ce sens?
Bien entendu. Quand nous disons que nous faisons un atelier de reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement ou de conception de la nouvelle génération de la chaîne d'approvisionnement, c'est pour adresser tout ce problème, n'est-ce pas, ces problèmes de certaines aires de santé qui ne sont même pas accessibles à vélo, d'autres même pas accessibles à moto, d'autres qui doivent être accessibles ne serait-ce qu'en prendre, demande à ce qu'on puisse prendre un bateau ou une pirogue, voilà, donc... C'est des moyens de transport multimodaux, n'est-ce pas, qui vont être utilisés avec comme seul objectif que nous fixons, c'est que les vaccins arrivent là où les populations en ont besoin. Et toutes ces problématiques ont été adressées au cours de cet atelier et nous avons mis un nouveau réseau, un système d'approvisionnement qui optimise la chaîne.
Docteur Alem Goto, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Le responsable des programmes au sein de l'ONG Village Reach dans le Maniema répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vuita, supervision de Martin Sebujangwe, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.